Aujourd'hui, je vous propose de parler de deux sœurs qui n'existent pas. C'est une histoire qui est racontée par un prophète, mais ce n'est pas une prophétie. Ça ressemble plus à une parabole. Ça raconte des événements qui se sont déjà produits quand il les raconte. C'est pour cela que ce n'est pas une prophétie. Cette histoire, qui aurait dû être plus belle qu'un conte de fées, a tourné au drame sordide. Et pour lire cette histoire, il faut mettre en parallèle le texte que nous allons lire, Ézéchiel chapitre 23, avec, dans la deuxième partie du livre des rois, les chapitres 18 à 25. Nous ne lirons évidemment pas tous ces chapitres, mais si vous voulez avoir les faits historiques qui entourent ce que nous allons lire, je vous invite à lire donc 2 rois 18 à 25. Ézéchiel 23. Et pour bien comprendre ce texte, il est nécessaire d'avoir quelques informations en tête. D'abord, des informations sur l'histoire d'Israël. On connaît l'histoire de Saül, de David, de Salomon. Et puis après Salomon, le territoire d'Israël a été coupé en deux. Le territoire du Nord, royaume du Nord qu'on continue à appeler Israël et qui avait pour capitale Samarie, et le royaume du Sud qu'on appelle Juda, avec comme capitale Jérusalem. Alors quand on parle royaume du Sud ou Jérusalem, c'est la même chose. Quand on parle de Samarie ou royaume du Nord, c'est la même chose. Et puis une autre chose qui est importante, qui est l'épouse de Jésus ? L'épouse de Jésus, c'est l'Église, et dans l'ancienne alliance. L'équivalent de l'épouse de Dieu, c'est Israël. Eh bien, nous allons lire l'histoire de ces deux sœurs, et justement la façon dont Dieu voit l'attitude d'Israël. On va lire Ézéchiel, chapitre 23, les versets 1 à 4.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte, elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Là, leur sein virginal a été touché. L'aînée s'appelait Ohola et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi et elles ont enfanté des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem.
Et donc on voit ici ces deux sœurs qui sont en fait une représentation, l'une de Samarie, l'autre de Jérusalem, donc l'une du royaume du Nord et l'autre du royaume du Sud. Épouse de Dieu, Israël, et qu'ont-elles fait ? Elles se sont prostituées. Leur nom est significatif. Ohola, ça signifie sa propre tente. Et Oholiba, ça signifie ma tente en elle. La tente, comme pour faire du camping. Quand on parle de la tente, c'est le lieu où Dieu réside. Une tente, c'est ce qui abritait Dieu pendant les 40 années dans le désert. C'était le lieu où le peuple venait prendre contact avec Dieu. Et puis, il y a eu le temple à Jérusalem, donc dans le royaume du sud de Juda, c'est Oholiba, et Dieu a fait sa tente en elle. Dieu a fait sa tente, a fait construire le temple dans le royaume du sud, Oholiba. Quant à Ohola, sa propre tente, cela fait probablement référence à une pratique qui a commencé dès que le royaume d'Israël était séparé en deux, c'est que, il y a eu des temples d'idoles qui ont été créés à l'intérieur du royaume du Nord. Et donc, ils ont créé leur propre temple et leur propre tente pour adorer ces idoles. Ohola, sa propre tente dans le royaume du Nord, et avec un but clairement établi. Il fallait qu'il y ait des lieux d'adoration dans le royaume du Nord pour éviter que les gens aillent dans le royaume du Sud, à Jérusalem, pour adorer Dieu. Rébellion. Rébellion. C'est un rejet du temple de Dieu qui est à Jérusalem et c'est, par conséquent, aussi un rejet de Dieu. Un rejet de Dieu et en fait derrière une idolâtrie pour soi-même. On parle d'Égypte aussi dans ce texte. On parle d'Égypte, c'est là que le peuple de Dieu a grandi. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph déporté en Égypte et puis de Joseph à Moïse. Le peuple a grandi en Égypte. Et c'est là que certains juifs se sont opposés à Dieu en reprochant à Moïse d'avoir alourdi leur charge. Et puis, on peut se poser une question lors de la 10e plaie. Est-ce que tous les juifs ont mis du sang autour de la porte ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que quand le peuple est sorti d'Égypte pour aller dans le désert, est-ce qu'ils sont tous partis avec le peuple ? Je ne sais pas non plus. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'une fois arrivés dans le désert, plusieurs ont regretté d'être sortis d'Égypte et préféraient retourner au milieu de ce peuple païen plutôt que de suivre le plan que Dieu avait fixé pour eux. Dieu compare toutes ces rébellions à de la prostitution. Alors continuons à lire ce texte et parlons d'abord de Hola, le royaume du Nord. Nous lirons les versets 5 à 10.
Hola me fut infidèle. Elle s'enflamma pour ses amants, les Assyriens, ses voisins, vêtus d'étoffes d'un ton bleu, gouverneurs et chefs, tous jeunes et charmants, cavaliers montés sur les chevaux. Elle s'est prostituée à eux, à toute l'élite des enfants de la Syrie. Elle s'est souillée avec tous ceux pour lesquels elle s'était enflammée. Elle s'est souillée avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte, car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse, ils avaient touché son sein virginal, et ils avaient répandu sur elle leur prostitution. C'est pourquoi je les ai livrés entre les mains de ses amants, entre les mains des enfants de l'Assyrie, pour lesquels elle s'était enflammée. Ils ont découvert sa nudité, ils ont pris ses fils et ses filles, ils l'ont fait périr elle-même avec l'épée, elle était en renom parmi les femmes, après les jugements exercés sur elle.
Vous voyez qu'ici, on ne mâche pas les mots. Heureusement qu'il n'y a pas d'enfant dans la salle, c'est quand même relativement explicite comme façon de décrire les choses. Tout cela est la façon dont Dieu voit ses rébellions, ses alliances avec les nations environnantes, alliances politico-militaires, puisque Israël a de nombreuses fois préféré s'appuyer sur la force des chars et des chevaux plutôt que sur la force de Dieu, et a conclu des alliances avec des nations païennes, mais aussi alliances de mariage, puisque de nombreuses fois, le peuple d'Israël a pris des femmes étrangères qui les ont poussées à l'idolâtrie. Ils ont érigé des temples pour les nombreuses idoles de leurs femmes, à commencer par Salomon lui-même. Et c'est une forme d'idolâtrie qui est en fait de l'adultère. C'est de l'infidélité, dans un cas comme dans l'autre. Infidélité envers le mari comme une infidélité envers Dieu. C'est le même mot que l'on utilise pour l'image et pour la réalité physique. On en avait déjà parlé il y a 2 semaines lors du culte de ces infidélités à répétition du peuple d'Israël. Et le royaume du Nord prend fin par l'invasion par les Assyriens. Les Assyriens sont arrivés, ils ont tué les uns et déporté les autres. C'est la fin du royaume du Nord, on n'en entendra plus parler. Continuons, lisons les versets 11 à 21.
Sa sœur Oholibama vit cela. Elle fut plus déréglée qu'elle dans sa passion. Ses prostitutions dépassèrent celles de sa sœur. Elle s'enflamma pour les enfants de la Syrie, gouvernait les chefs, ses voisins vêtus magnifiquement, cavaliers montés sur des chevaux, tout jeunes et charmants. Je vis qu'elle s'était souillée, que l'une et l'autre avaient suivi la même voie. Elle alla même plus loin dans ses prostitutions. Elle aperçut contre les murailles des peintures d'hommes des images de Chaldéens peintes en couleur rouge, avec des ceintures autour des reins, avec des turbans de couleurs variées flottant sur la tête, tous ayant l'apparence de chefs et figurant des enfants de Babylone, de la Chaldée leur patrie. Elle s'enflamma pour eux, au premier regard. Elle leur envoya des messagers en Chaldée. Et les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle pour partager le lit des amours. Et ils la souillèrent par leur prostitution. Elle s'est souillée avec eux, puis son cœur s'est détaché d'eux. Elle a mis à nu son impudicité, elle a découvert sa nudité, et mon cœur s'est détaché d'elle, comme mon cœur s'était détaché de sa sœur. Elle a multiplié ses prostitutions en pensant aux jours de sa jeunesse, lorsqu'elle se prostituait au pays d'Égypte. Elle s'est enflammée pour les débauchés, dont la chair était comme celle des ânes, et l'approche comme celle des chevaux. Tu t'es souvenu des crimes de ta jeunesse, lorsque les Égyptiens pressaient tes mamelles à cause de ton sein virginal.
Quand on constate que quelqu'un a une attitude qui a mené au désastre, comment on fait? Il y a deux attitudes possibles. Il y a deux façons de réagir. La première, qui est la bonne, c'est ben, « c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Et la deuxième, c'est eh bien, celui qui est tombé dans les problèmes, c'est parce qu'en fait, il n'est pas allé assez loin. Et il aurait dû aller plus encore dans la voie qu'il avait choisie. Il y a eu quelques plaisanteries comme ça, à propos d'hommes politiques. Certaines anciennes, certaines moins. Vous avez peut-être entendu cette histoire de cet homme politique qui a dit lors d'un discours « Nous sommes au bord du gouffre ». Et en étant au bord du gouffre, nous allons faire un grand pas en avant. Ça avait bien fait rire les journalistes à l'époque. Ou cet autre politique auquel son peuple disait « Vous êtes en train de nous envoyer droit dans le mur ». Et il répondit « Nous allons accélérer ». Eh bien, c'est exactement ça que fait le royaume du Sud. C'est exactement ça que fait Oholibama en voyant que Ola a été déporté en raison de son rejet de Dieu, eh bien, Oholibama va encore aller plus loin dans son rejet de Dieu. Aller encore plus loin dans ses alliances avec encore plus de peuples étrangers. Aller encore plus loin dans la désobéissance des ordres de Dieu. Oholibama s'était confié dans des hommes qui l'ont trahi. Eh bien, Oholibama va se confier plus intensément et en plus d'hommes encore, et qui vont, eux aussi, tout en temps, la trahir. Et non seulement elle s'est livrée à la débauche, mais elle a récidivé. On l'a vu, je le disais, il y a 2 semaines, lors du culte, il y a eu des mouvements de repentance qui n'ont pas tenu, et des rechutes. Et des remouvements de repentance. Et les prophètes les avaient avertis à de nombreuses reprises. Et les prophètes ont été plus ou moins écoutés. Mais finalement, la chute est arrivée. Et j'ose quand même vous lire le verset 20 en traduction du semeur. Elle s'est enflammée d'un désir passionnel pour les hommes débauchés, ayant des membres d'âne et qui ont l'ardeur des talons, quand je parlais de texte explicite tout à l'heure. Est-ce que vous voyez la violence de l'image? On parle ici d'accomplir des fantasmes écœurants avec une issue fatale. Voilà ce qu'est l'idolâtrie de Judas. Quand j'ai préparé ce texte, je dois vous dire que j'en avais la nausée. Continuons. Ézéchiel, toujours chapitre 23, les versets 22 à 30.
C'est pourquoi, Oholibama, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'excite contre toi tes amants, ceux dont ton cœur s'est détaché. et je les amène de toutes parts contre toi. Les enfants de Babylone et tous les Chaldéens, nobles, princes et seigneurs, et tous les enfants de l'Assyrie avec eux, jeunes et charmants, tous gouverneurs et chefs, chefs illustres, tous montés sur des chevaux. Ils marchent contre toi avec des armes, des chars et des roues, et une multitude de peuples, avec le grand bouclier et le petit bouclier, avec les casques. Ils s'avancent de toutes parts contre toi. Je leur remets le jugement, ils te jugeront selon leur loi. Je répands ma colère sur toi, ils te traiteront avec fureur, ils te couperont le nez et les oreilles, et ce qui reste de toi tombera par l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles, ce qui reste de toi sera dévoré par le feu. Ils te dépouilleront de tes vêtements, et ils enlèveront les ornements dont tu te pars. Je mettrai fin à tes crimes et à tes prostitutions du pays d'Égypte. Tu ne porteras plus tes regards vers eux, tu ne penseras plus à l'Égypte, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je te livre entre les mains de ceux que tu es, entre les mains de ceux dont ton cœur s'est détaché. Ils te traiteront avec haine, ils enlèveront toutes tes richesses et te laisseront nu, entièrement nu. La honte de tes débauches sera découverte, de tes crimes et de tes prostitutions. Ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostitué aux nations, parce que tu t'es souillé par leurs idoles.
Le désir qu'il a lié à ses amants s'est transformé en haine réciproque. Elle les voyait comme des sauveurs, comme des Apollons. Et maintenant, elle considère que ce sont des ennemis à juste titre. Elle termine nue, mais pas pour se livrer à la débauche cette fois-ci. Cette fois, c'est pour la honte. Elle qui séduisait les hommes se retrouve maintenant défigurée. Vous avez vu ? C'était une pratique de l'époque. Quand il y avait des ennemis, on leur coupait le nez et les oreilles. Triste époque. Elle se retrouve dans une situation épouvantable qu'elle a provoquée elle-même. Continuons les versets 31 à 35.
Tu as marché dans la voie de ta sœur, et je mets sa coupe dans ta main. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu boiras la coupe de ta sœur, tu la boiras large et profonde. Elle te rendra un objet de risée et de moquerie. Elle contient beaucoup. Tu seras rempli d'ivresse et de douleur. C'est la coupe de désolation et de destruction, la coupe de ta sœur Samarie. Tu la boiras, tu la videras, tu la briseras en morceaux, et tu te déchireras le sein, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu m'as oublié, parce que tu m'as rejeté derrière ton dos, porte donc aussi la peine de tes crimes et de tes prostitutions.
Que pensez-vous de cette illustration de la coupe ? Elle est terrifiante, n'est-ce pas ? Elle est large, elle est profonde, et tout ce volume, il contient de l'ivresse, de la douleur, de la désolation, de la destruction. Alors si on n'a que l'Ancien Testament, effectivement, c'est terrifiant. Mais si on a le Nouveau Testament, eh bien, il y a une lueur d'espoir aussi dans cette illustration de la coupe. Quand on parle de coupe, ça ne résonne pas en vous, comme un texte biblique bien connu. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il y a une porte de sortie à cette coupe. La coupe qui contient les péchés. La coupe qui contient tout le mal que le rejet de Dieu provoque. Nous, cette coupe, nous ne sommes pas obligés de la boire. Et nous ne sommes pas obligés de la boire parce que, si nous le voulons, Jésus a accepté de la boire à notre place. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait déjà eu aussi cette lueur d'espoir. 2 Chroniques 7, 14 nous dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » En l'occurrence, Israël n'a pas pris cette porte de sortie. Continuons et lisons la suite et la fin de ce chapitre.
L'Éternel me dit, Fils de l'homme, jugeras-tu Ohola et Oholiba? Déclare-leur leur abomination. Elles se sont livrées à l'adultère. Il y a du sang à leurs mains. Elles ont commis adultère avec leurs idoles et les enfants qu'elles m'avaient enfantés. Elles les ont fait passer par le feu pour qu'ils leur servent d'aliment. Voici encore ce qu'elles m'ont fait. Elles ont souillé mon sanctuaire dans le même jour et elles ont profané mes sabbats. Elles ont immolé leurs enfants à leurs idoles. Et elles sont allées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. C'est là ce qu'elles ont fait dans ma maison. Et même, elles ont fait chercher des hommes venant de loin. Elles leur ont envoyé des messagers. Et voici, ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé, tu as mis du fard à tes yeux. Tu t'es paré de tes ornements. Tu t'es assis sur un lit magnifique devant lequel une table était dressée. Et tu as placé sur cette table mon encens et mon huile. On entendait les cris d'une multitude joyeuse, et parmi cette foule d'hommes, on a fait venir du désert des Sabéens, qui ont mis des bracelets aux mains des deux sœurs, et de superbes couronnes sur leurs têtes. Je dis alors au sujet de celle qui a vieilli dans l'adultère, continuera-t-elle maintenant ses prostitutions, et viendra-t-on à elle? Et l'on est venu vers elle, comme l'on va chez une prostituée. C'est ainsi qu'on est allé vers Ohola et Oholiba. Ces femmes criminelles. Mais des hommes justes les jugeront comme on juge les femmes adultères, comme on juge celles qui répandent le sang. Car elles sont adultères, il y a du sang à leurs mains. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai monter contre elles une multitude, et je les livrerai à la terreur et au pillage. Cette multitude les lapidera, et les abattra à coups d'épée, on tuera leurs fils et leurs filles, on brûlera leurs maisons par le feu. Je ferai cesser ainsi le crime dans le pays. Toutes les femmes recevront instruction et ne commettront pas de crime comme le vôtre. On fera retomber votre crime sur vous et vous porterez les péchés de vos idoles et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel.
Les deux sœurs ne se sont pas seulement livrées à la débauche, elles ont aussi massacré les enfants de Dieu et elles ont engendré des enfants de prostitution. Elles sont passées de l'adultère au meurtre. Elles ont profané tout ce qu'elles ont trouvé de sacré. Donc, je le disais tout à l'heure, on peut comparer ces textes avec 2 Rois 18 à 25 qui relatent les faits historiques qui sont décrits ici dans la vision spirituelle de Dieu de ces faits. Je vous invite aussi à lire le livre d'Osée, qui utilise une illustration similaire pour les mêmes faits. Osée a prophétisé aussi sur cette débauche d'Israël. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de tout cela? Dieu fait preuve de patience. On voit dans ce texte de nombreux péchés d'Israël. Dieu avertit et laisse Israël responsable de ses actes et en assumer les conséquences. Mais la patience de Dieu a une limite. Et Dieu finit par faire arriver sa condamnation. Cela tombe par la déportation d'abord du royaume du Nord par les Assyriens, puis du royaume du Sud par les Babyloniens. Que pouvons-nous en tirer pour nous-mêmes ? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, depuis quelque temps, ceux qui prennent la parole reviennent au fondement de l'enseignement biblique, au fondement de la vie chrétienne. Aujourd'hui, le péché. Précédemment, il y avait eu des enseignements sur la scène, sur la prière, sur la communion fraternelle. Il est toujours bon de revenir au fondement de ce que la Bible nous enseigne. Examinons-nous nous-mêmes. En qui est-ce que nous nous confions? Est-ce que nous nous confions dans des hommes? Ou est-ce que nous nous confions en Dieu? Est-ce que chaque épreuve nous pousse plus loin vers des solutions humaines? Ou est-ce que chaque épreuve nous pousse dans les bras de Dieu? Ce que nous pouvons retenir, c'est ce que nous dit Romains 5. Romains 5, 20 à 6, 2, je vous le lis. Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Que chacun de nous ait non seulement de la sagesse et du discernement, mais aussi que chacun mette cette sagesse et ce discernement en pratique dans notre relation avec Dieu. Je prie. Seigneur, tu nous as mis ce soir face à la réalité du péché, à la façon dont tu le vois, la seule façon qui compte. Seigneur, nous te demandons pardon pour le péché que nous avons commis. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où tu nous as avertis par tes prophètes et où nous n'avons pas mis en pratique ce que tu voulais nous enseigner dans ces avertissements. Seigneur, nous voulons nous jeter dans tes bras, rejeter toute solution humaine, mais nous confier en toi pleinement. Amen.